Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes deux enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis, je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Samuel, merci d'avoir accepté de partager ton témoignage. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Ouais, donc Samuel, du coup, aujourd'hui, papa de 3 enfants. Après, dans la vie de tous les jours, je suis pharmacien. Et du coup, ça fait... la première, elle va avoir 9 ans. Donc, ça fait 9 ans que j'ai commencé ma vie de papa.
Et elle a combien d'enfants?
Du coup, on a 2 filles et un garçon. Et le dernier a 3 mois.
Ah, c'est tout frais.
C'est tout frais.
Ça se passe bien?
Ouais, nickel. Bon, on commence à avoir l'habitude, donc c'est une petite routine maintenant.
Est-ce que tu t'es toujours projeté en tant que papa de plusieurs enfants?
Ouais, depuis le début, on voulait, avec ma compagne, on voulait plutôt une grande famille. Même au tout début, on se disait, allez, on va partir pour 4. Après, bon, là, on va peut-être voir ce que ça va donner.
Est-ce que tu avais quand même des appréhensions sur certains sujets ou pas du tout? Tu étais juste motivé et plein d'espoir?
Ouais, sans prise de tête. On y va et puis on apprend au fur et à mesure. Pas de choses particulières, pas de craintes particulières, voilà.
D'accord, et du coup un jour vous vous dites, bah ça y est, on est prêt, et vous vous lancez comme ça.
Ouais, et ben à la fin de mes études, pour le coup, je finis, j'ai mon diplôme, on est en projet d'acheter une maison, et du coup on se dit, bon bah voilà, c'est le moment, on fait tout en même temps, ça y est, bébé, maison, travail, voilà, on se lance dans tout.
Et ça s'est passé rapidement, est-ce que ça, c'était pas un gros bouleversement?
Si, complètement. C'était pour dire, la première, elle est née en mai. On a emménagé dans la maison en décembre, quelques mois avant, quoi. Donc, en fait, quand elle est née, déjà, on avait quasiment rien dans la maison, quasiment aucun meuble. On n'avait même pas de canapé. On était par terre sur des poufs pour passer nos soirées. C'était la galère un peu au début. En fait, petit à petit, voilà, on a pris ce qui nous manquait, et puis, sans prise de tête, on s'est dit, là, faudrait qu'on investisse dans ça, là, on va essayer de trouver ça, on va bricoler un truc, voilà. On s'est débrouillé, et puis, petit à petit, on a fait notre famille, notre foyer.
Et comment ça s'est passé, la première grossesse?
Alors, la première grossesse, plutôt découverte, hein, autant... les petits moments rigolos où on sent le bébé bouger et tout, et puis les petits moments galères où les pieds qui gonflent, les crampes dans la nuit, c'était pas la première grossesse, c'était pas une mauvaise grossesse, ça s'est plutôt bien passé je pense pour nous deux, bonne expérience, en plus pour le coup c'était un bébé de printemps, donc plus ça allait, plus il y avait les beaux jours, on profitait aussi du coup de d'être dehors, de faire des petites marches, donc non, la grossesse plutôt tranquille, et puis après, bon, via ma profession, s'il fallait mettre, voilà, c'était facile de trouver des crèmes, des bas de contention, des choses comme ça pour améliorer le confort de tous les jours.
Est-ce que tu t'es préparée d'une manière particulière à l'accouchement, à la paternité?
Bah, pour le coup, oui, parce que donc, bah, dès le début, on avait le projet d'accouchement à domicile. Parce que du coup, ma compagne, elle avait déjà réfléchi à la chose, elle s'était déjà renseignée et tout. Donc, en fait, dès le départ, donc on a été voir une sage-femme pour nous accompagner dans ce sens-là. Et donc, bah, elle avait ses séances et tout pour préparer la grossesse. Moi, je l'accompagnais du coup aussi pour savoir tout ce que bah, les petits exercices à faire, les massages pour l'aider, pour aider à accepter les douleurs et tout, tout ce qui était musique d'ambiance. Donc, on a préparé des petites playlists, des choses comme ça. Plutôt serein en fait pour aller le jour de l'accouchement, même si le jour J en fait on était tous en panique un peu à courir partout à savoir est-ce que tout va bien, qu'est-ce qu'il faut préparer, voilà. Mais en soi on avait tout le matériel était prêt, on avait notre organisation, voilà. Après c'était le temps que ça se lance, quoi.
Ouais. Alors avant d'arriver à l'accouchement, l'accouchement à domicile c'est quand même un choix assez particulier, assez inhabituel. Qu'est-ce qui a amené ta compagne à ce choix-là? Et ensuite, par rapport à toi, est-ce que tu avais, pour un homme c'est pas forcément évident, on peut penser que c'est risqué, on peut avoir des peurs assez importantes, donc comment tu t'es préparé toi à ce moment-là?
Pour revenir à ma compagne, après c'était le côté, elle voulait pas médicaliser le truc. Elle voulait faire son accouchement tranquille, quoi. Et en fait, tant qu'il y avait pas de problème, elle voyait, et du coup, moi par la suite aussi, en fait, on voyait pas l'intérêt d'aller dans un service hospitalier, alors que, en soi, je veux dire, moi, mes grands-parents, ils ont accouché chez eux, il n'y avait pas de souci, donc je vois pas pourquoi, tout d'un coup, en 50 ans, fallait forcément que nous, on aille se médicaliser cet acte. Moi, d'un point de vue professionnel, on va dire, c'est sûr que j'avais un peu de peur au début. Mais parce que, lors de mon cursus, en fait, on nous stigmatise un peu la chose. Donc en gros, c'est que voilà, l'accouchement pour être sûr que tout se passe bien, parce que ça peut être dangereux, parce que ça peut mal se passer et tout, faut que ça soit en milieu hospitalier et tout. Donc j'étais un peu balancé, voilà, entre moi ce que j'ai appris globalement et le choix de ma compagne. Après en soi, on réfléchit 5 minutes et puis on se dit voilà, c'est qui va faire le boulot, c'est qui va vivre vraiment l'accouchement, c'est elle, donc c'est elle qui décide, quoi. En soi, moi j'ai rien à dire, moi je suis juste accompagnateur, je serai au pire aidant plus ou moins, mais c'est pas moi qui fais le boulot, donc si elle veut le faire à la maison, elle le fait à la maison, et puis on va faire en sorte que ça se passe bien, et que tout soit prêt pour que ça se passe bien, quoi.
Et donc un jour ça commence, travail démarre.
Et ouais, voilà. Donc en pleine nuit, voilà, ça y est, ça commence. Elle rompt la poche, ça commence comme ça direct. Donc les contractions arrivent assez vite finalement. On prépare tout, on appelle la sage-femme pour la prévenir. On met les alèses partout pour protéger la literie, protéger tous les endroits où elle pourrait accoucher, quoi. Le travail démarre un peu, les douleurs arrivent. On lance tout le truc qu'on a appris, hein, donc les exercices, bien respirer, moi les massages et tout au niveau du dos pour essayer de calmer un peu les douleurs dû à l'accouchement, voilà, tout se met en place. Finalement, en fait, la sage-femme, quand elle vient et tout, elle trouve que le travail, il avance lentement, quoi. Donc, elle fait, on part dans un baignoire, on fait un bain et tout, eau chaude, pour décontracter les muscles, voilà, pour aider à l'ouverture et tout. Et puis, finalement, ça se passe, et puis, elle accouche dans la baignoire, bébé arrive dans l'eau.
C'était pas prévu
comme ça, mais c'est comme ça, et puis voilà.
Et c'était assez rapide.
Après, pour le coup, ouais, ça s'est lancé une fois dans baignoire et tout, et ça s'est fait voilà assez rapidement et tout. La sage-femme était là et tout, elle avait aidé un peu à l'ouverture bien de l'utérus, et puis bah après voilà, le travail s'accélérait, et puis les vraies contractions sont vraiment venues, et puis voilà. Et puis en fait, dans la baignoire, bébé est venu très vite.
Et toi, t'étais où?
Moi j'étais de l'autre bout, il y avait la sage-femme du coup d'un côté de la baignoire, ma compagne dans la baignoire, et puis moi j'étais de l'autre côté. Voilà, à tenir la main, à l'encourager. Et puis bah voilà, surpris, émotif, voir bébé arriver comme ça, et se dire bah ça y est, il est là, voilà. Avant c'est plutôt imaginaire, parce que je pense que pour le papa en plus bah voilà, on n'a pas les contractions, on sent pas bébé bouger et tout, donc pendant 9 mois on est plutôt là c'est. Bon, on sait qu'on va être papa, mais matériellement, il n'y a rien, quoi. On vit pas le truc. Et puis là, voir bébé arriver, tu te dis, ah ça y est, c'est là c'est sûr.
Et donc le bébé il sort, ça se passe comment? C'est la sage-femme qui l'attrape, il
Bébé
va
il
où?
sort, du coup bah sage-femme l'attrape, hop, elle clampe, elle coupe du coup le cordon dans serviette et tout, elle me le donne. Donc moi après hop, je vais dans le salon donc qui est juste à côté, donc avec bébé faire du pot à pot quoi, le temps que du coup la délivrance se fasse. Et puis quand la délivrance, bah après la délivrance du coup, ma compagne sort, pareil du coup hop serviette, peignoir et tout pour pas qu'elle ait froid. Elle me rejoint dans le salon et puis après hop c'est son tour et puis bah les premières tétées et tout et tout.
Mais tout s'est bien passé, la délivrance du placenta, les premières
Ouais,
tétées.
il y a eu c'est pas vraiment une déchirure, une petite éraflure en fait au passage de bébé. Pour le coup, je crois qu'il y a eu 2 points de fait, quelque chose comme ça, quoi. Le début de l'allaitement était compliqué pour le coup. C'est pareil, là c'est une autre histoire et le début, on nous dit bon. Après, on nous avait prévenu hein, que voilà, bon bah faut pas abandonner. Les premières tétées, c'est compliqué. Le temps que le mamelon se forme, le temps que bébé comprenne et tout. Mais en fait, on a eu au début, il y a eu vraiment un gros problème de. Ben, on n'y arrivait pas quoi. Bébé voulait pas et tout. Il prenait mal. Et puis, pour le coup, les conseils de la sage-femme n'étaient pas super super sur ce coup-là. Donc on a été plutôt à essayer de voir un peu à gauche à droite ce qu'on nous conseillait. Et du coup bon voilà en fait avec des conseils de position allongée ou des choses comme ça, c'est parti. Et puis après une fois que bébé et maman se sont coordonnés, c'était nickel. Ça s'est bien fait.
Ça a pris combien de temps à peu près?
Ah ça a pris bien avant que ça parte bien 10-15 jours peut-être, ouais.
Et donc là, bébé est là et vous êtes chez vous en fait.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous coucher après? Vous faites quoi?
Pour le coup, la maman elle a faim, donc je lui fais un repas déjà.
À quelle
Ça
heure?
fait beau. Là, ça devait être, on était en début de soirée quoi. On était
Ah
en
oui.
début de soirée. Donc je lui fais un petit repas et tout. Elle est avec bébé du coup dans le salon. Voilà, on grignote, voilà. Après on est sur notre petit nuage, hein, on admire cette petite chose là qu'on a faite quoi. Du coup après bon, on va se poser dans le lit tranquille, voilà, avec bébé entre nous. Et on est juste là, voilà, à l'admirer pendant des heures jusqu'à ce qu'on tombe de fatigue et qu'on s'endorme tous les trois.
c'est beau.
Ouais.
C'est beau. Et là, du coup, tu as réalisé que
Et là,
c'était
on réalise,
concret.
ouais, c'est ça, on réalise, et puis ouais, c'est vraiment, c'est de l'admiration, quoi, de se dire, voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon, ouais, voilà, c'est vraiment, on sent directement que c'est quelque chose qu'on doit protéger, que, voilà, c'est notre petit trésor, quoi.
Et par rapport à ta compagne, est-ce que tu sens qu'à ce moment-là, quelque chose a changé en toi, ton regard par rapport à elle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'avoir
Complètement,
assisté à ce moment-là?
ouais. Bah quand on voit ouais c'était puissant quoi, c'était l'accouchement, c'était on voit l'énergie et c'était sauvage. C'était vraiment. Et du coup, on se dit, waouh, ouais, c'est. Ouais, c'était vraiment la force déployée. C'est. Ouais, complètement différent. On a un autre regard. Là, ça fait vraiment. C'est la guerrière en pleine action. Et du coup, ouais, c'est. Voilà. C'est, on n'a plus le côté doux, maternel et tout. Là, c'était vraiment la puissance dure pour donner naissance, quoi. Et. Ouais, c'est impressionnant. Très impressionnant. Du coup, on n'a plus du tout la même image. On se dit, ah, il y a, voilà, ça, il y a de la force.
Et toi, est-ce qu'à des moments, tu t'es senti un peu dépassé ou est-ce que tu as eu peur ou des choses que auxquelles tu t'attendais pas du tout?
Pas pour la première. Pas pour le premier enfant. Le premier enfant, ça s'est... pour le coup, après, ça s'est très bien passé. Elle était super bien. Du coup, bah, après, ça coule de source, en fait. À partir du moment que les tétés se passent bien... Bon, après, les nuits, hein, c'est des nuits de bébé, donc c'est des courtes nuits. Mais bon, c'est un rythme à prendre. Et on n'a pas eu de soucis particuliers pour la première naissance. Pour les autres, après, il y a eu des petites complications. Juste...
Ouais. Ok. On va en parler après. Est-ce que vous étiez entouré à ce moment-là? Vous aviez du soutien familial ou autre?
Ouais, alors après au début du coup, on n'a pas voulu trop s'imposer, ce qu'on regrette peut-être un peu. Donc c'est-à-dire que très rapidement, nos familles sont venues, parce qu'on était à la maison, et parce qu'il y avait bah, bébé. En plus, c'était le premier petit enfant de mes parents. Et du côté de ma compagne, c'était pareil. Donc en gros, voilà.
Je connais ça.
voilà. Et du coup, vu qu'on était à domicile, bah, en fait, ils se sont dit, ah bah, on vient vous rendre visite demain, bah, nous, on vient un tel jour. Et rapidement, en fait, on a eu plein de visites. Et en fait, on était crevés en soi. Et on aurait limite voulu plus de tranquillité, quoi. Dire, bah non, en fait, laissez-nous, quoi. Nous aussi, on veut en profiter d'un côté, voilà, vous êtes grands-parents, vous avez déjà vécu la naissance de votre enfant, laissez-nous en profiter, nous, de notre côté, et voilà. Et du coup, on s'est fait un peu manger, je trouve, par la famille.
Sur est-ce qu'ils venaient aussi vous aider un peu, ou c'était juste pour voir le bébé?
C'était surtout pour voir le bébé.
Voilà. Je comprends.
Ouais. Parce qu'on a, du coup, pour après, on a bien appris la leçon, et après, on s'est pas fait avoir pour les autres.
Et vous étiez un cododo avec votre bébé, du coup?
Ouais.
C'était quelque chose voulu ou que finalement...
C'était voulu parce que c'était pour simplifier en fait le côté tété. Ouais. Complètement, voilà. Ma maman, elle allaitait, donc par simplicité, autant que bébé dorme avec nous, et puis au moins comme ça, voilà, dès qu'il veut téter... Bon. C'est à disposition, il y a juste à tirer bébé, rapprocher du sein, et puis hop, voilà. Donc ouais, non, beaucoup plus simple.
Et tu avais prévu quoi comme congé paternité? Est-ce que tu avais prévu de rester du temps avec ton bébé?
Alors à l'époque, j'avais pu prendre 15 jours, je crois. Après, ouais. J'étais salarié et tout, donc en gros, j'avais pas trop, voilà, c'était pas trop le choix. J'aurais voulu prendre plus, mais...
C'est passé comment cette transition où tu passes 15 jours en douceur avec ton bébé, ta compagne, et après tu reprends le boulot?
Et après tu reprends le boulot, ouais. C'était. Bah, de côté, c'était dur parce que t'as pas envie d'y aller au boulot, hein, quoi. T'as envie de dire non, c'était bien, quoi. T'es dans le petit nuage là et tout, et puis quitter bébé, c'était pas. Voilà. C'était plutôt dur la séparation. Et puis en plus, bah, d'un autre côté, c'est-à-dire que bah, ma compagne, après, bah, elle est toute seule à gérer, quoi. Donc faut gérer bébé, faut faire à manger, faut... Bon, après, du coup, bah, on essaye d'aider au max, quoi. Quand on rentre le soir, et puis bah, les week-ends, on se dit, hop, laisse tomber, c'est moi qui fais tout, repose-toi, quoi. Mais ouais, non, c'est pas... Plus longtemps, ça aurait été peut-être... Surtout, en fait, pour un premier, le temps qu'on se cale sur notre rythme et tout, c'était un peu compliqué.
Est-ce que ça a créé des déséquilibres dans le couple? Parce que c'est souvent à ce moment-là que c'est un peu compliqué.
Non, je pense pas. Non. Après, bah, pour le coup, après, c'est le côté... comment dire? c'est le côté émotionnel, quoi. C'est-à-dire que, bah, en fait, quand on est crevé et tout, bah, on prend peut-être moins de goût à d'autres choses et tout, quoi. C'est que, voilà, on arrive à un moment, en fait, où, bah, on est le soir, on est claqué, on va pas se dire, bah, tiens, on va se faire une petite sortie, on va se faire une petite balade, ou, donc, en gros, c'était plutôt, c'était moins animé, quoi. C'était plus une période plan-plan, voilà, un peu. Bon, après, pour le coup, il y a bébé, hein, donc, il y a toujours de quoi faire, mais pour
C'est
nous, en
sûr.
tout cas, il y avait moins de choses pour nous.
Et à quel moment vous vous dites, bah c'est bon, on est prêt en deuxième?
Bah, globalement, bah, c'était, bon, 3 ans, quoi, rentrer à l'école, quoi, et puis on se dit, bah, voilà, pourquoi pas, on y va, quoi, on est prêt, en fait, voilà, c'est que, bah, la grande, à 3 ans, bon, c'est, même si c'est pas non plus la grosse autonomie, mais c'est un peu plus autonome, ça, voilà, si ça a envie d'aller boire, ça va se prendre un verre, ça va boire, ça s'habille quasiment tout seul, c'est voilà. Donc on s'est dit bon bah c'est parti, on voulait une grande famille, donc on fait le deuxième.
Ok, et là, c'était quoi les surprises avec un deuxième? Parce qu'on
Le deuxième
pense
c'était
déjà tout
compliqué parce que
savoir.
bah, le deuxième c'est un bébé Covid déjà. Donc en
Ouais.
gros elle est née fin février et 10 jours après c'était le confinement. Donc ça change la donne. Donc bah, globalement la grossesse bien. Pas de soucis aussi, toujours voilà, pas plus de complications que la première. Du coup, l'accouchement un peu plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Parce que l'accouchement, bah, première contraction et tout, ok, voilà. Sauf que bah, ça bouge pas. Donc là, en fait, il n'y a pas de rupture de la poche des os, mais le travail commence, quoi. Donc grosse, grosse contraction douloureuse et tout. Et première journée et tout comme ça et ça avance pas voilà. Du coup bah deuxième journée hop ça reprend voilà contraction qui reprend et tout et puis ben bah, moi on fait bah la sage-femme elle fait bah venez quoi venez au cabinet on va voir quoi on va au cabinet et là elle nous dit bah non le travail il avance pas et tout tu commences à fatiguer quoi elle dit à ma compagne tu commences à fatiguer voilà, je vous laisse jusqu'à ce soir quoi. Si ce soir il y a rien, bah c'est en maternité hein. Globalement, en gros c'est voilà, faut faire quelque chose. Ça peut être dangereux pour bébé, ça peut être dangereux pour la maman, voilà. Du coup, bah, nous on sort du cabinet en larmes en disant bah non, c'est pas ce qu'on veut quoi. Donc en stress et tout, on fait bah non, on veut pas, voilà, on voulait pas aller en maternité, on voulait pas, on se dit zut, toute la grossesse s'est bien passée, terminée en maternité, en plus ou moins, on va arriver plus ou moins en urgence comme ça va être au protocole d'urgence et tout, voilà, on voulait pas. Donc ce qu'on fait, donc on avait gardé la petite jusque-là, et en fait ma mère elle habite pas trop loin du cabinet, donc on dit bah on laisse la petite. Au cabinet et puis comme ça on se concentre juste nous deux. On n'a plus besoin de gérer la petite. Donc on retourne après chez nous et puis là on fait des exercices qu'on avait appris avec la sage-femme pour essayer d'accélérer le travail et tout et tout. Et vers 20h la poche rompt enfin. Donc on appelle vite fait la sage-femme, on dit ça y est, la poche elle est rompue, viens à la maison, en gros ça va venir quoi. Et puis ça s'est fait à l'aide du net, je sais plus, vers 11h ou minuit, quelque chose comme ça quoi. Donc née in extremis avant la maternité. Donc nickel.
Ouais, un coup de stress quand même.
Un beau gros de stress là, on était pas bien quand même.
Est-ce que c'était dans l'eau encore ou ça s'est passé différemment?
Non, ça s'est passé différemment, ça s'est passé dans les escaliers. En
Ah.
fait, on a une rambarde et tout, et puis elle était à la rambarde comme ça, et en fait, on a un faux étage dans le salon, quoi. Donc la sage-femme, elle était en bas dans le salon. Il y avait la rambarde, ma femme accrochée à la rambarde, et en gros, bah, elle l'a chopé sous la rambarde, le bébé. C'était pile à sa hauteur, la sage-femme, c'était prévu pour. Mais comme elle nous l'a dit, elle a fait, mais c'est vraiment fait pour les accouchements ici.
Incroyable.
Donc c'était nickel. Donc voilà, dans les marches, bah, dans les marches, à côté des marches plutôt. Et du coup, bah voilà, bah, bébé naît. Moi, j'ai qu'une envie, c'est essayer de partager ça du coup avec ma première fille. Donc, vu qu'elle s'achève, faut qu'elle reste 1 heure et tout après l'accouchement pour être sûr que ça se passe bien au niveau de la délivrance et tout. Donc, je vais voir ma compagne et je fais je te laisse avec la sage-femme et tout. Je vais vite fait chercher la grande là et puis je reviens et puis comme ça, voilà, ce soir on est tous ensemble et voilà. Donc, je prends la voiture, je fonce chez mes parents, je récupère la petite à minuit, minuit et demi, quoi. Je fonce pour rentrer à la maison, et puis là, du coup, la petite, on lui fait, voilà, ta petite sœur, là, voilà. Et puis, du coup, Sacha, elle fait, moi, c'est bon, voilà, j'ai fait l'heure et tout, tout se passe bien, nickel. Elle fait, on se revoit demain pour la peser et tout. Et puis, je vous laisse. Et en fait, on est resté donc, dans le canapé, dans le salon, peut-être 2 heures, voilà. La petite, ma première fille, elle était en admiration, pareil, devant ce petit bébé. C'était super, super moment ensemble.
Oui, j'ai les armes aussi. C'est bon. Et donc, du coup, ouais, pareil, vous profitez en famille, à la maison, pendant quelques
ouais,
temps et tout.
C'est ça. Et là, du coup, par contre, là, on dit aux familles, voilà, pas de visite à l'aîné, mais par contre, vous attendez pas de visite avant 3-4 jours, quoi. Là, on voulait vraiment être dans notre... entre nous, et vraiment, voilà, le partage familial, créer du lien et tout, et voilà. Donc, ça, c'est fait, nickel. Le week-end arrive, donc là, les familles, du coup, viennent. Donc on enchaîne et tout, pour le coup c'est assez crevant aussi de parce que tout le monde vit en même temps là pour le coup. Donc bon moment et tout, et après du coup l'annonce annonce du confinement. Et ouais. Ça pour ma compagne c'était compliqué pour le coup parce que moi retour pharmacie hein, et puis avec le Covid et tout en fait on avait eu du taf, beaucoup de taf. Donc moi je me fais des journées de taré en fait. Donc je pars le matin quasiment tout le monde dort parce que pour le coup il n'y a plus d'école. Et je rentre le soir à 20h quoi, 20h30 quoi. Et en fait ma compagne elle est toute seule à la maison et la famille peut pas venir. Elle peut pas faire des sorties ou choses comme ça pour changer les idées, donc en fait elle reste avec les enfants et dans la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là c'est parti en pseudo déprime. C'était là pour le coup c'était hyper compliqué, très très compliqué.
Ah oui, je pensais confinement tout le monde reste à la maison, mais non, pharmacien non.
Non, pas nous.
Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour cette période-là?
On essaye d'aider au max, en fait, quand je rentrais et tout, les week-ends, pareil, je fais non, mais repose-toi, on essaye de faire des activités, mais en fait, des activités, à part sortir dehors dans notre jardin, on n'a pas grand-chose à faire. Donc elle en profitait, elle avait quand même les visites de sage-femme pour bébé. Donc on avait les autorisations de sortie à l'époque. Donc en fait quand elle avait cette autorisation de sortie, elle en profitait pour un peu faire le tour aussi chez mes parents et tout, histoire de de se changer les idées et tout, mais c'était pas non plus tous les jours quoi, c'est une fois par semaine je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'était compliqué. Après je sais plus, c'est vers mai je crois que le confinement a arrêté. Donc là il y a l'école qui a recommencé, donc pour le coup on ramenait la petite à l'école, elle allait la chercher, donc ça faisait un peu plus de sortie, et puis la famille elle pouvait venir. Mais les 3 premiers mois c'était vraiment, psychologiquement c'était difficile pour elle.
Ouais, en plein postpartum, toute seule, Je comprends. Et l'allaitement pour la deuxième, ça s'est
passé? Et l'allaitement pour la deuxième, alors c'était compliqué parce qu'elle avait un frein de langue. Et elle avait énormément de reflux. On a eu un bébé, un gros bébé reflux, mais vraiment avec des jets de reflux et tout. Compliqué donc au début parce que le temps que déjà qu'elle adapte sa langue, qu'elle muscle sa langue. Donc pour prendre le mamelon et tout, c'était pas facile. Elle y arrivait quasiment pas quoi. Et du coup pour faire ramener le lait, hyper compliqué quoi. Donc c'était plutôt douloureux et tout. Et puis après, avec les reflux, en fait, on commençait à rentrer dans un cercle un peu vicieux où elle vomissait, quoi, donc ça la brûlait. Donc elle demandait à téter, donc elle retétait, mais directement après, en fait, elle revomissait et en fait, on n'arrivait pas à s'en sortir. Donc ça aussi, c'était assez chaud. Donc dans un premier temps, après, la grande, elle tétait toujours. On avait une technique où en fait c'est la grande qui commençait à faire monter le lait et après du coup on mettait bébé au sein. Comme ça elle avait pu activer la montée de lait, elle se faisait et donc elle s'énervait moins et elle arrivait mieux à boire. Donc ça c'était bon, on
Ah,
avait
c'est
notre
pas mal,
technique
j'avais
du
jamais
coup.
entendu parler de cette technique, mais ça m'a l'air bien, ouais.
Du coup, on avait
Très
d'autres techniques
astucieux.
pour que faire amener le lait à bébé, ça c'était bien. Et en fait pour le reflux, on a essayé, moi, du coup, j'avais ramené du Gaviscon, j'avais ramené des IPP, on avait essayé plein de trucs, rien à faire. Et la sage-femme, du coup, elle nous a dit, elle a fait, mais au pire, prenez une tétine. Pour éviter, en fait, ce côté cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au moins, elle va prendre sa tétine, elle va s'énerver dessus et tout, mais elle va pas boire de lait, du coup, il y aura pas de régurgie, ainsi de suite. Et on n'était pas trop pour parce qu'on avait peur qu'il y avait une confusion et tout. On s'est dit, ouais, mais après, s'il y a une confusion synthétine, va falloir qu'on tire le lait pour lui donner au biberon. Voilà. On était pas pour et tout. Et en fait, à force, on s'est dit, bon, ok, on écoute la sage-femme, on essaye, on verra bien. De toute façon, on n'arrivait plus pour le reflux, on n'arrivait plus du tout à gérer. Donc on a mis la tétine et en fait ça nous a sauvé ça nous a sauvé le truc quoi. Ça
Très
nous a
bien.
sauvé le truc en fait c'est voilà ce qui était prévu c'est fait donc en fait elle s'énervait sur la tétine mais au moins ça la calmait et derrière vu qu'elle avait rien il y avait moins de reflux donc le reflux en fait pareil il s'apaisait petit à petit et en gros voilà après elle prenait des vraies tétées des bonnes tétées qu'elle gardait plus ou moins et en fait ça s'est amélioré petit à petit au fil du temps ça s'est amélioré nickel quoi.
OK. C'était quoi ta vision d'allaitement avant? Parce qu'en tant que pharmacien, tu as une vision un peu de, je sais pas, il y a quand même toute une culture autour des
De ça?
compléments,
Bah,
voilà.
ouais, alors après, normalement, on promue quand même vachement l'allaitement maternel. Mais c'est vrai que pour le coup, en fait, on nous apprend que, généralement, la maman, elle prend quoi? Elle prend 3 mois maternité, quoi. Donc, l'allaitement, il est de 3 mois. Et après, c'est soit tirage de lait, parce que du coup, on en fait en pharmacie et tout, on met en place des locations et tout, donc je savais que du coup, il y a quand même pas mal de tirage de lait, ou en gros, c'était du lait en poudre, quoi. Et c'est surtout qu'on nous dit, un an d'allaitement, maximum 3 ans, et puis après, c'est fini, quoi.
3 ans, c'est déjà hors norme.
Ouais, pour le coup, on a fait des hors normes, parce que nous, la grande, elle a dû téter encore peut-être jusqu'à ses 5 ans. Là, du coup, notre deuxième, aujourd'hui, elle en a, pareil, elle va avoir 6 ans là, et elle a arrêté de téter que quand il y a eu la naissance, de mon dernier. Donc, en gros, pareil, elle a tété 5 ans, quoi.
Et
Donc,
c'était
on
en souhait
était...
de ta compagne?
En fait, ouais, on s'est dit, tant qu'elle veut le téter... En fait, y a pas de mal, au contraire, c'est naturel, quoi. Et en fait, même en recherchant et tout, en fait, on se dit, quand on parle de dents de lait, par exemple, les dents de lait, en fait, c'est les dents qu'il y a pendant la lactation. Donc, c'est-à-dire qu'on perd normalement nos dents pour avoir les dents d'adulte dans la période où normalement on devrait arrêter de téter. Et les dents de lait, on les perd à 5-6 ans, jusqu'à 8-9 ans, quoi. Donc, naturellement, un enfant devrait téter jusqu'à à peu près ses 5-6 ans. Tant qu'il a la plupart de ses dents de lait, quoi. Donc, c'est vrai que par rapport à ce que nous, on nous enseigne, en fait, et qu'on se dit, oh, normalement, à 3 ans, on arrête, ou on passe à du lait, à la limite, du lait de vache, classique, voilà. En fait, non, pas du tout. Au contraire, je veux dire, on est en train de faire des bébés allergiques à les protéines de lait de vache et tout, mais ça m'étonne pas, parce que notre corps, il n'a pas été fait pour s'arrêter à 3 ans de tétée, et puis encore moins à boire du lait d'une autre espèce, quoi.
Et du coup, là, vous avez attendu un petit peu plus longtemps avant de vous lancer dans le troisième.
Alors, c'est qu'en fait, on a eu un drame.
Ah.
On a eu, du coup, pareil, on a attendu à peu près 3 ans et tout, et puis on s'est dit, hop, on fait notre troisième bébé. Donc, on fait notre troisième bébé et tout, la grossesse, au début, se présente bien. Premier écho et tout, voilà, nickel et tout et tout. On fait la deuxième écho, du coup, vers 5 mois de grossesse, quoi. Et en fait, là, il découvre qu'il y a une spina bifida. Donc, en gros, c'est une malformation de la moelle épinière, du bas de la moelle épinière. Et du coup, bah, paralysie et tout derrière, avec aussi des syndromes au niveau du cerveau. Parce qu'en fait, la moelle épinière tire le cervelet et le cerveau. Et du coup, il y a une déformation un peu au niveau cérébral, quoi. Donc, bah, urgence à Angers pour avoir des images plus précises, voir qu'est-ce que ça touche et tout. Et là, ils nous disent que, bah, en gros, la déformation, elle est haute dans les lombaires. Donc, ce qui veut dire une paralysie haute aussi. Et que, bah, en gros, ils nous disent, bah, ça fera un enfant qui serait hémiplégique, donc qui marchera jamais, risque de céphalomégalie, donc en gros c'est trop d'eau au niveau du cerveau qui peut faire une dégradation, donc en gros il faudra faire une opération pour mettre un tuyau en fait qui va de la boîte crânienne jusque dans l'estomac pour évacuer l'excédent de LCR, quoi. Et vu que l'enfant grandit, eh ben, faudra refaire des opérations pour rechanger, n'en mettre un plus long et ainsi de suite. Et en fait, ils disent, bah, en gros, c'est voilà, c'est votre enfant sera paralysé, il aura une opération tous les 3 mois jusqu'à l'âge adolescent adulte, quoi. Il peut avoir des séquelles cérébrales qui peut qu'il aurait des retards, que voilà. Et bah, il nous propose en gros de faire un arrêt médical de la grossesse, quoi. Donc on réfléchit pas trop longtemps parce que de toute façon avec Marine voilà, on a une formation un peu médicale et tout, donc on sait que globalement garder un enfant qui va pas vivre parce que physiquement et psychologiquement voilà, ça tiendra pas. Ça veut dire que c'est aussi un enfant qui prendra toute notre attention, donc nos deux autres enfants, en fait, bah, faudra qu'ils se débrouillent. Donc, on fait du coup l'arrêt, quoi. Donc, en décembre 2023, du coup, au CHU d'Angers, du coup, on fait l'arrêt. Donc, c'est notre première expérience, pour le coup, d'un accouchement à l'hôpital. Et c'était la pire des expériences, complètement. Donc bah voilà. Donc après on prend suite à ça, bah on prend le temps qu'il faut, hein, pour faire le deuil et tout. Et
Est-ce que ça te dérange de partager comment ça s'est passé concrètement?
Non. Okay. Non. Après en plus en soi ça s'est bien passé. Hein. L'équipe elle était super. Donc on arrive le matin très tôt. Donc ils nous mettent dans une petite salle, voilà, tranquille et tout. Ils font, bah, vous prenez votre temps, voilà, vous vous installez et tout. Et du coup, bah, après, vous dites quand vous êtes prêt et tout. Donc la première étape, bah, c'est globalement c'est l'euthanasie de l'enfant, parce que vu qu'on était avancé dans la grossesse, si on faisait juste comme ça un accouchement, quoi, il y avait une probabilité qui naît vivant, en fait. Et ils ont dit, en fait, c'est que bah, s'il naît vivant, dans ce cas-là, il faudra qu'on fasse tout notre possible pour le maintenir en vie et tout. Et là, c'est pas le but, parce qu'on veut faire un arrêt de la grossesse, quoi. Donc, en fait, ils font une injection d'anesthésiant dans le cordon. Voilà, pour endormir, bah même pas d'anesthésie, oui, c'est un sédatif ou je sais pas trop quoi, pour endormir le bébé et en gros provoquer un arrêt cardiaque. Donc ils font ça, donc en fait on est là, hein, globalement ils font ça à travers, dans le ventre quoi, ils mettent des aiguilles, ils chopent le cordon avec l'écho quoi, et en gros on voit l'image, c'est assez traumatisant dans le fait où en fait on assiste en direct à ça, et ok, voilà. Et du coup après, ils nous annoncent la mort, donc pareil, on vous laisse un peu de temps. Et quand on est prêt en fait pour provoquer en fait l'accouchement, on les appelle. Donc on les appelle, et du coup ils donnent, c'est l'ocytocine et tout qui donne en fait à Marine quoi, qui provoque les contractions et tout. Et le boulot commence quoi. Là ils nous laissent tous les deux. On se dit non mais c'est bon, on fait notre affaire quoi. Donc on y va et tout, pour le temps que le travail commence et tout, et puis à un moment voilà, le travail commence à être fort et tout, donc là on appelle une sage-femme pour qu'elle nous assiste. Ça se fait en gros, voilà, comme pour les autres accouchements quoi, le bébé arrive quoi. La particularité c'est que le bébé il est arrivé dans son œuf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de la poche, elle est venue comme ça. Et puis on découvre notre bébé quoi.
Il n'avait pas pris de péri du coup, c'est là tout.
Non, okay. Ouais. On voulait le faire comme pour les autres.
C'est bon.
Et du coup on l'habille, on le lave. Et puis on prend notre temps. On est resté peut-être 2 heures avec elle. Et puis on leur remet. Ils nous la mettent du coup en chambre funéraire. Vu que c'était prévu, on avait tout organisé avant. C'est-à-dire qu'on avait été appelé, on avait tout prévu, l'enterrement et tout. Et du coup, on était avec nos familles et puis on a vécu le truc quoi. Pour le coup, ça s'est bien passé. Mais c'était le pire moment de ma vie.
Je comprends. Et comment on accompagne aussi des sœurs, des enfants dans ce type de moment?
Dans ça, on partage en fait. On partage notre tristesse. Il n'y a rien à expliquer parce que même nous, en fait, sous le coup, on comprend même pas pourquoi ça nous arrive, quoi. Donc on partage, et puis on partage notre tristesse ensemble, et puis en soi ça crée du lien, on a vécu toute cette épreuve ensemble, et puis ouais. Après aujourd'hui, elles savent qu'elles ont leur petite sœur et tout, on va lui rendre des visites de temps en temps. Mais y a rien. Y a rien en fait. On explique que c'est une malformation. C'est comme ça, ça arrive. Et puis voilà.
Je n'ai même pas de mots, moi.
Non, après, de toute façon, c'est comme ça. Hein. C'est là vraiment. En gros, on subit le truc et puis. Et puis ouais, on se pose plein de questions et tout, hein. Ça fait relativiser, et puis par contre après on profite encore plus de ses enfants en se disant que rien n'est acquis et que ça peut arriver comme ça. Donc on prend du temps un peu pour le deuil et tout, et puis à un moment en fait on se dit faut pas qu'on reste sur ça. On voulait un autre enfant et puis on le tente quoi. Et du coup, troisième grossesse, voilà. Ouais. Donc, troisième grossesse plutôt particulière, parce qu'on prend beaucoup de distance.
Ah oui.
Pour le coup, suite à ça, on veut pas, on veut pas aller trop vite, on veut pas trop prévoir, on veut pas trop se projeter. Et du coup, on attend bien la première écho, y a rien, vous êtes sûr? Oui, ok. On attend la deuxième écho, y a rien. Ok, bon, là on commence alors à se dire, a priori, ça va bien se passer. Donc on voit, ça y est, on commence enfin à faire des petits projets, à se projeter, à préparer les choses et tout. Et en fait, jusqu'au jour où bah, ça arrive et qu'on voit que bah, c'est en bonne santé et que c'est super quoi. Ça y est, ça revient super.
Ok, là du coup à la maison encore?
À la maison encore, ouais. À la maison encore. bon, pour le coup, après là, on a l'habitude, donc il y a beaucoup de moins d'a priori et tout. Bah, les filles pour le coup sont hyper contentes aussi hein, de voilà de voir une autre expérience et un bébé voilà un nouveau bébé arrivé. Donc là pour le coup on les garde à la maison du début à la fin. Et pour le coup le travail avance plus vite. Si on s'était dit bon bah avec la première c'était un peu long, bah la deuxième ça a duré 2 jours donc voilà. Donc là on s'est dit, on a appelé à Sacha, mais on fait bah voilà. Tu connais ma compagne, ça, on dit vraiment quand ça commence à venir quoi. Sauf que quand ça commence à venir, j'appelle la sage-femme, je sais bah c'est bon, tu peux venir. Et en fait, 10 minutes après, je sais bah par contre, bah, je pense que ça arrive quoi. Et là, bah, il me reste encore une demi-heure de route. Je sais bah oui, mais là, c'est là quoi. Et elle me fait, ah, bah, t'inquiète, laisse ta femme faire, de toute façon, ça vient tout seul. Et puis bah c'est venu tout seul dans mes bras, hein. J'étais là et tout, et en fait bébé sortait, et la Sacha rentrait dans la maison. Et du coup bah
Ah
voilà, elle est
wow.
faite, la naissance.
Et c'est toi qui l'as attrapé cette fois-ci.
Et c'est moi qui l'ai attrapé cette fois-ci, ouais. Ouais.
Le
Donc
premier
encore une
garçon, du
nouvelle
coup,
expérience, un
tu
garçon
l'avais
ouais pour
suivi.
changer, ouais.
Oui.
Et du coup bah c'était rigolo. J'avais du coup bah ma deuxième fille qui voulait absolument voir l'accouchement et du coup bah qui était à côté de moi quoi et voilà qui a vu bébé venir voilà. Donc bah là super pareil, on est là à la maison, les filles sont là, on se met dans le salon tranquillement et puis pareil on profite à fond. Et pour le coup là j'ai pu prendre là j'en ai profité vu que maintenant que tu as installé, donc j'avais prévu ça du coup avec mon associé, et puis là je me suis pris 2 mois voilà pour profiter de cet enfant, et vu que avec ce qu'on a vécu et tout, j'ai dit à Marine, je fais non, là je prends 2 mois, je profite à fond, je reste là, je voilà.
Trop
Donc
bien.
voilà, très bonne expérience.
Et est-ce que tu ressens une différence dans le lien avec tes bébés sur cette première semaine ensemble?
Alors, par rapport là, en prenant 2 mois au lieu de prendre
Oui.
15 jours, quoi? Ouais,
Oui.
complètement.
Qu'est-ce
Complètement.
que ça
Bah,
change?
déjà, en fait, je trouve qu'on reconnaît plus ses habitudes ou ses choses comme ça. Donc, en fait, quand il y a des petites crises de pleurs, ou je sais pas, j'ai l'impression de mieux le comprendre. De savoir pourquoi là il pleure et pourquoi. Voilà. Alors qu'avant c'était. En gros, avant c'était la checklist quoi. C'est un bébé pleure, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la couche, c'est pas ça. Est-ce qu'il a faim? C'est pas ça. Est-ce qu'il a des coliques? Et en fait, on fait la checklist, qu'est-ce qu'on trouve la bonne réponse quoi. Alors que non, là c'est différent. Ouais. Je trouve que. Je sais pas, c'est un peu plus clair, on va dire.
Ouais. Bah, c'est assez logique parce que tu sais, il y a des études qui montrent que selon le temps passé avec le bébé, le cerveau va se modifier plus ou moins. Et donc c'est ton cerveau qui se câble
Qui
par rapport aux
m'adapte.
besoins de ton bébé. Ouais. C'est assez drôle,
Ouais, bah
non?
ouais, mais ça se voit, ouais.
Et voilà, et comment ça se passe du coup avec 3 enfants à la maison?
bah c'est un peu c'est pareil, c'est un peu la course. Bon, c'est le temps que ça se cale. Après là c'est le côté aussi où, en fait bah les grandes pour le coup qui sont plus vieilles quoi. Bah, en plus de l'école, il y a des activités extrascolaires, des choses comme ça. Donc en fait, des fois, on est à la bourre un peu pour des choses quoi. En gros, on s'apprête à partir. Bah non, bébé, il pleure, il veut téter. Ouais, bah ouais, mais on est déjà pas en avance parce que les petites, elles étaient pas prêtes et tout. Donc tété rapide, hop, on part. On a 15 minutes de retard. Bah tant pis. C'est comme ça. Mais sinon, non, ça va. Après, en plus, ce qui est bien, le fait qu'elle soit grande, c'est que, bah, surtout la plus grande, en fait, elle nous aide. Et elle nous aide de bon cœur, parce que, bah, voilà, elle a l'âge où, bah, veut faire aussi la petite maman, quoi. Et en fait, quand il faut, bah, elle vient s'occuper de lui, quand il pleura, de le prendre dans les bras, elle nous aide à l'habiller, voilà. Donc on n'est pas tout seul. Pour le coup, il y a du monde pour nous aider tout le temps.
Et est-ce que tu ressens une différence par rapport au fait que ce soit un garçon ou une fille? Ou est-ce que tu t'étais projeté père de fille et de garçon?
Alors,
ou pas?
Bah, donc mes deux filles et puis bah, notre enfant mort-né et tout, c'était trois filles. Donc à un moment, je me suis dit, je suis incapable de faire des mecs. Hein. Donc je me suis fait à l'idée, en fait. Je me suis dit, bah non, c'est pas possible, je ferai que des filles, quoi. Et à la deuxième écho, en fait, on avait demandé le sexe, parce que je voulais pas la surprise, je voulais savoir. Et quand ils m'ont dit, c'est un garçon, je suis enfin, ça y est, cool. Donc non, bah, ouais, c'est différent. En soi, c'est... Alors, un bébé reste un bébé, donc en soi il y a pas de grosse différence. Il y a des différences, surtout pour l'instant c'est dans le changement de couche, parce que c'est pas pareil.
Ah, je comprends.
Et c'est pas plus pratique chez un garçon.
J'ai eu la même surprise.
Je me suis dit au début, ça va être mieux et tout, mais en fait non. Non, c'est bien pire, les gars.
Non, j'ai aussi la surprise, tu sais, on a pratiqué la chenille, je sais pas si ça
ouais,
te parle.
Ouais, et ben on en fait aussi un peu, ouais.
Ah oui, bah avec ma fille, la première, c'était super facile, une fille, tu la mets sous le pot et voilà. Un garçon, comment tu fais exactement pour que ça parte pas dans tous les sens? C'est impossible. Moi, j'ai tenu 3 jours, je crois, j'ai pas réussi à aller plus loin.
Ah bah non, bah, on essaye en fait. Bah pour l'instant, c'est le début, donc en gros, quand on voit que c'est un début de caca, hop, vite, on le prend et tout, on le met au-dessus du bidet et tout, on fait ah, et puis bah, ça va à peu près. Mais ouais, non, c'est pas évident du tout.
Non. Et par rapport à cette histoire de garçon, tu sais, quand on est un homme et qu'on a un garçon, parfois, il y a des projections qui viennent sur, on a des souvenirs de notre propre enfance, comme nous, on a été éduqués en tant que garçon. Est-ce que c'est peut-être un peu tôt à 3 mois, mais est-ce que tu as eu déjà des allers-retours dans ta tête comme ça?
Non. Pour l'instant, j'en ai pas. Et après, je pense pas. Parce que, de toute façon, voilà, on a éduqué nos filles vraiment comme on l'entendait, et on s'est pas du tout basé sur l'éducation qu'on a pu recevoir, ni ma compagne ni moi, parce qu'on a vu clairement qu'on avait des lacunes dans notre éducation quand on était gosse, quoi. C'était plutôt à la vieille franquette, on va dire. Donc maintenant, voilà, non, on est passé sur heureusement d'ailleurs. On a pu mettre les doigts sur les choses qui allaient pas, et on repratique pas du tout les choses qui allaient pas. Donc non, je pense que on va rester dans notre éducation comme on l'entend, en fait. C'est vraiment notre philosophie, et puis essayer de transmettre ce qu'on pense être juste, quoi. Et pour l'instant, ça marche pour les deux grandes, donc on n'a pas de raison de s'inquiéter pour le dernier.
Est-ce que ça a pas généré des petites tensions avec les grands-parents à des moments?
Sur ça aussi, déjà avec les filles, hein, de toute façon, hein, que vous êtes trop laxistes, à mon époque, mais bon, ils font ce qu'ils veulent.
Oui. Est-ce que du coup vous gérez comment ce type de tension?
Bah, on leur dit, hein. Clairement, c'est vous faites bien ce que vous voulez, hein. On n'était pas là, nous, pour critiquer comment vous éduquez vos enfants, alors laissez-nous éduquer les nôtres, quoi. Et puis après, de toute façon, je pense qu'avec tout ce qui se dit aussi maintenant, ça, je pense que c'est plus facile quand même maintenant de parler de peut-être de l'éducation des enfants, et justement de ce qui devrait pas se faire, en fait, et qui se faisait peut-être à notre époque, quoi. Et donc non, et puis ils sont pas trop voilà. Globalement, ils savent que ils auront beau en parler, ils nous changeront pas, et que c'est comme ça, et puis pire, si ça les dérange, bah ils arrêtent de voir leurs petits-enfants, mais je pense qu'ils tiennent à voir leurs petits-enfants, donc ils auront pas le choix.
Et par rapport au couple, du coup, avec un enfant, peut-être que ça allait. Après 2, 3, comment vous faites pour retrouver des moments de couple, d'intimité, et surtout avec le cododo? Est-ce que ça a été un défi déjà à la base, et comment vous faites?
Non, franchement non. On s'est pareil, on s'est pas pris trop la tête. C'est revenu naturellement. On n'en a pas forcément parlé. C'est revenu comme ça. Je sais même pas trop en plus si c'était dans les mêmes périodes pour les uns et pour les autres. Mais ouais, c'est revenu plutôt assez rapidement. Puis après, le cododo, ça change rien. Je veux dire, bébé, il dort, hein. On n'est pas non plus. C'est pas le bruit qu'on va faire. Et c'est pas non plus. On fait pas trembler la maison. C'est pas. Voilà, quoi. Faut pas exagérer les choses. Donc, non, y a jamais eu de soucis et tout. Rien. Il n'y a aucun pour aucun des trois.
Okay.
Sur ça, tranquille. Puis bah, après, bah, quand ça commence à être grand, de toute façon. On en profite quand ils sont en vacances chez les grands-parents, ou quand ils sont à l'école, ou quand, voilà. Il y a un moment où on est un peu tout seul, et puis voilà.
On fait comme on peut.
C'est ça.
Est-ce que tu te sens transformé par le fait de devenir père? Est-ce que c'était graduel avec les différentes naissances? Est-ce que c'est venu d'un coup?
Bah, c'est surtout
qu'est-ce qui a changé?
C'est le premier enfant, je pense, qui change tout. Parce que parce qu'en fait je pense qu'on veut faire les choses bien, quoi, et qu'on se dit sur l'éducation, sur la protection, en gros, faut pas se louper, hein. C'est après on se dit si l'enfant est mal élevé, si on a loupé des choses, ou même au contraire, s'il a pas eu assez d'amour, qu'il est un peu en déprime. Maintenant on voit tellement des choses quand on voit des ados complètement déprimés et tout. Et donc non, c'est clair qu'on se donne la pression au final, hein, pour essayer de bien faire les choses, être attentif et tout. Mais du coup ça vient dès le premier. Et c'est vraiment autant avant on est plutôt dans le côté je sais pas, on pense à notre petit confort, quoi. C'est-à-dire que même dans nos envies et tout, on se dit ah bah tiens, je vais bien m'acheter, une nouvelle télé parce que l'écran est un peu trop petit, ou des nouvelles chaussures parce que les miennes sont un peu. Mais voilà, c'est très confort personnel et tout. Et en fait, quand on a notre gosse, bah je trouve, quand on a le premier enfant, bah en fait, on pense moins, on se dit bah qu'est-ce qu'il lui faut à lui, quoi, en fait. Donc, on a pu se... c'est limite, on trouve que la chaussure, elle a un trou, et on fait « Ah, il est peut-être temps de changer de chaussure, en fait. » Faut peut-être que je pense aussi à ça.
C'est qu'on a tendance à s'oublier.
C'est complètement. Alors qu'avant, c'est pas du tout, quoi. Mais en fait, ouais, depuis, ouais, on s'oublie parce que c'est surtout qu'est-ce qu'il leur faut, on a oublié ça, le manteau de l'année dernière, elle est trop petit, faut qu'on en achète un autre, c'est vrai qu'on pense que plus qu'à eux quasiment.
Et si tu avais pu préparer quelque chose pendant la première grossesse, anticiper quelque chose, ça aurait été quoi?
Je sais pas. Pour améliorer les choses, quoi. Je sais pas. Après, en soi, aujourd'hui, avec notre expérience et le vécu qu'on a fait, aujourd'hui, je pense que la première grossesse, ça serait pas passé. Pareil, pas sûr, maintenant, on le sait et on sait à quoi s'attendre. Je pense que j'aurais essayé, si j'aurais vu en fait la puissance qu'il aurait fallu et tout, j'aurais peut-être essayé de mieux accompagner, mieux encourager ma compagne, mieux l'accompagner et tout. Après on était là, mais c'est vrai que au début on sait pas trop quoi faire, en fait. On nous donne des astuces, on lui dit faut faire ci, faut faire ça et tout, mais en soi c'est autant de la découverte pour elle que pour moi, quoi. Donc c'est un peu au fur et à mesure de l'évolution de l'accouchement qu'on se dit là on a une autre étape, faut peut-être que j'insiste un peu plus sur ça pour diminuer les douleurs . Après c'est compliqué en soi, matériellement on était prêt, en fait, matériellement il y aurait rien à faire de plus. C'était peut-être plus dans la psychologie, voilà, plus dans le côté coach un peu.
Ah bah c'est curieux, c'est exactement ce que j'essaie de faire avec du coup la série audio Gardien de la naissance, c'est justement de travailler plus sur cette préparation psychologique, connaître bien les différents stades de travail et quoi faire à quel moment, ouais.
Bah surtout qu'on ne le vit pas, donc c'est compliqué de savoir, parce que c'est vraiment jugé, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas dire à la maman, t'es à quel stade, là, pour savoir ce que je dois faire, voilà. Donc,
oui, il faut vraiment avoir une capacité de savoir.
C'est ça, et là, on se dit, elle a l'air d'avoir un peu plus mal et tout, c'est que ça doit avancer. Donc, c'est assez compliqué, hein, d'essayer de juger, et du coup, d'apporter un peu les bonnes conditions, apporter les bons gestes et tout pour améliorer le confort, parce qu'en soi on peut faire que ça, nous, essayer d'améliorer le confort de la maman, quoi.
Tu sais que les sages-femmes, elles arrivent à reconnaître les stades juste par la voix. Elles peuvent reconnaître au téléphone à quel stade les femmes elles sont. Qu'est-ce qu'elles font comme
ça, c'est leur expérience. Ouais. Mais ça vient finalement à là. À force de faire des accouchements à domicile, je commence à être pas mal aussi. Hein.
Ah oui, je m'en doute. Et une dernière question. Si tu pouvais passer un message à une version de toi plus jeune qui n'était pas encore papa, qu'est-ce que ce serait comme message ?
Faut pas avoir peur, c'est que du bonheur au final. Faut pas avoir ses craintes, faut pas... Ouais, faut même pas se prendre la tête en fait, c'est naturel. Franchement, quand on voit un petit être qu'on a ça dans les bras, on peut que l'aimer, et en fait après ça coule de source, quoi. Il y a vraiment un lien naturel qui se fait, et ça se fait tout seul. Faut pas se prendre la tête, faut pas se stresser, faut y aller comme ça, naturellement et au feeling, et ça se passe très bien.
Merci beaucoup et merci surtout, je crois, d'avoir accepté de partager les moments difficiles aussi.
Pas de soucis.
Parce qu'on n'a pas l'habitude d'en parler, non. Et c'est un vrai sujet.
Et ça fait partie de la vie finalement, malheureusement.
Mmh. Ouais, c'est clair. Donc, merci beaucoup pour cet échange.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de lien avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître. N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt!